Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, c'est tout compris. Avec un plat du jour, une madeleine, une cerise sur le gâteau présentée aujourd'hui par l'ami Pierre Hiverna de la plateforme Alimentation Générale. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Cerise sur le gâteau, sur quoi aujourd'hui ?
Sur un projet que j'aime beaucoup qui vise à rapprocher les villes des campagnes et réciproquement.
Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, la cerise sur le gâteau, c'est tout à l'heure à 12h25. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Vous êtes aussi avec nous aujourd'hui pour la Madeleine à 12h15. Avec qui ?
Eh bien, j'ai rencontré une figure incontournable de la nouvelle vague. Vous verrez bien, elle m'a parlé d'un dessert.
À tout à l'heure. Et pour notre plat du jour aujourd'hui, nous vous proposons un petit éloge des magasins alimentaires, ces lieux que le sociologue américain Ray Oldenburg considère comme de grands et bons endroits et qu'il est important de soutenir aujourd'hui. C'est ce qu'a voulu faire le Premier ministre Édouard Philippe le 20 février dernier. Lors de son déplacement à Girancourt, en parlant de la fermeture des boulangeries et autres cafés comme d'une catastrophe silencieuse et banale, je le cite. Alors comment les commerces de bouche font-ils face aujourd'hui à la concurrence de la vente en ligne et des hypermarchés ? C'est l'une des questions que nous allons poser à nos deux invités. Vincent Chabot, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, enseignant à l'Université de Paris et à Sciences Po, chercheur au Centre de recherche sur les liens sociaux, ça tombe bien. Vous avez écrit un éloge du magasin qui est apparu aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat. Et puis par téléphone avec nous depuis Sauxilange dans le Puy-de-Dôme, Christine Chalut, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes vous la cofondatrice d'un magasin citoyen. Vous allez nous décrire ce qu'est ce magasin citoyen qui a pour nom l'Alternateur. Mais avant de décrire ce magasin, j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit portrait de Sauxilange, Christine Chalut.
Alors, Sauxilange, 1100 habitants à peu près, c'est un village qui a quand même dans son ADN d'avoir une grande activité commerciale. On a de nombreux commerces. Alors, c'est très paradoxal parce qu'à l'heure où il y a des fuites de partout et où les magasins se ferment, nous, on a toujours maintenu un noyau commerçant très important. On a des bouchers, des charcutiers, trois boulangers, dont un bio. J'en passe, et des meilleurs, des commerces de tout genre. C'est assez impressionnant. Par rapport, bien sûr, à la capacité du village. Donc, c'est un petit village qui est à 12 kilomètres à peu près d'Issoire, une ville assez importante, où il y a beaucoup de supermarchés, bien entendu. À Sauxilange même, nous avons depuis 2 ans et demi une supérette qui s'est montée en périphérie de Sauxilange. Et c'est vrai qu'à l'ouverture de ce grand supermarché, le centre-bourg s'est trouvé un petit peu tristouné, puisqu'on avait une petite épicerie au centre-bourg, qui était quand même un peu le moteur de Sauxilange. Les gens se retrouvaient là pour faire leurs courses. Leur visite dans ce petit magasin forcément entraînait des répercussions sur les autres magasins, sur les boucheries, sur la pharmacie, sur la librairie. Et du coup, à la fermeture de ce magasin de centre-bourg, on s'est aperçu que vraiment, c'était plus possible. Une amie qui a un commerce, une agence immobilière dans la rue principale de Sauxilange, avait constaté vraiment, elle me disait pour rire, elle me dit c'est le désert de Gobi depuis que ce 8 à 8 a fermé. Donc, avec un groupe de copines, on a réagi assez rapidement en se disant il faut faire quelque chose, il ne faut pas perdre ce commerce qui est vraiment moteur pour l'activité de Sauxilange.
Et c'est comme ça qu'est né l'Alternateur.
C'est comme ça qu'est né l'Alternateur.
Vincent voilà. Chabot, Christine Chalut nous disait c'est paradoxal pour un village de 1100 habitants d'avoir autant de commerces, des charcuteries, des boucheries, des boulangeries, nous dit-elle. En même temps, c'est vrai qu'on parle toujours du déclin des petites surfaces, de la désertification commerciale des centres-villes. Alors évidemment, avec le coronavirus aujourd'hui, on a une autre cause de désertification possible. Mais quand même, si on regarde les chiffres, ne serait-ce que de 2018, et c'est des chiffres que vous donnez pour le domaine alimentaire, on constate que c'est pas si mal. Alors quel serait l'état des lieux ? Est-ce que en fait, on n'a pas de plus en plus de petits magasins à dominante, disons, alimentaire, contrairement à ce qu'on pense ?
On vit peut-être un tournant en ce moment. Effectivement, l'artisanat alimentaire, dont le chiffre d'affaires était plutôt sur le déclin depuis des années, hein, face à la grande distribution, repart. Alors, on n'a pas encore une tendance hein, sur 3, 4 ou 10 ans, mais effectivement, les chiffres sont là. Peut-être que ça correspond à une prise de conscience des consommateurs, on peut l'interpréter de cette façon-là. En tout cas, voilà, il y a a effectivement un certain nombre de données, des données aussi plus récentes sur le commerce de centre-ville de 2019, où on voit effectivement les magasins de rue avoir un chiffre positif, tandis que les centres commerciaux de centre-ville, les petits centres commerciaux, eux, sont sur le déclin.
J'aimerais bien savoir, d'ailleurs la question je la pose à tous les deux, comment vous définissez les différents magasins dont on parle, mais là depuis déjà une petite dizaine de minutes, disons. Christine Chalut, vous avez dit Superette, vous avez dit l'épicerie, le magasin dont vous êtes la repreneuse, l'alternateur, est un magasin citoyen. Là, vous venez de dire magasin de rue. Alors, comment on définit les choses? Je vais peut-être m'adresser à vous d'abord, Vincent Chabot. Éloge du magasin, de quoi parle-t-on?
Des magasins. C'est vrai que dans le livre, j'ai voulu parler des petits, des moyens, des grands.
Pas des hypermarchés, par exemple.
Je parle aussi des hypermarchés ou, par exemple, des foires au vin, des choses comme ça, effectivement. Mais dans notre discussion, là, on parle plutôt des indépendants, je pense. Des indépendants alimentaires, spécialisés, etc. Donc, on parle plutôt, effectivement, là, du commerce indépendant qui repart peut-être à la...
Mais a priori, c'est un lieu fermé. Vous ouvrez, paradoxalement, là aussi, votre livre sur un marché ou le marché, c'est-à-dire un lieu complètement ouvert. C'est pas un magasin, un marché, si?
C'est la première étape de mon périple commercial, effectivement, et sociologique. Le marché m'intéresse parce qu'effectivement, on aurait pu redouter sa disparition quand la grande distribution a pris son envol des années 60. Et finalement, une anthropologue, Michel de La Pradelle, qui s'est intéressée au marché de Carpentras, un très beau livre, elle a justement mis en évidence les raisons de son maintien. Finalement, les révolutions commerciales se succèdent, mais elles ne substituent pas les formats commerciaux en formats commerciaux.
Christine Chalut, magasin citoyen, ça voudrait dire quoi alors?
Alors justement, je rebondis sur ce que monsieur dit. Notre marché, c'est le mardi matin et c'est le jour où il y a le plus d'activité. Donc il y a une émulation quand même qui se crée entre les deux pôles de le marché, les petits commerces. Si vous voulez, il y a une espèce d'échange qui se produit et une émulation qui est vraiment très importante. Donc on pourrait penser que le marché capte la clientèle, mais pas du tout. C'est l'inverse.
Et puis surtout, c'est que le magasin est plus qu'un lieu d'approvisionnement. Alors ça, c'est vraiment la grande thèse de votre ouvrage, Vincent Chabot. Quelle est la fonction sociale du magasin? On parle encore une fois de magasin alimentaire, bien sûr, on est dans les bonnes choses.
Oui, alors ces fonctions-là, elles sont multiples, effectivement. Donc c'est le lieu du lien, ça c'est évidemment assez emblématique, du marché, et même peut-être aussi des hypermarchés, contre une vision un peu déshumanisante qu'on aurait. Le magasin sert aussi de cadre à la construction identitaire des individus.
C'est-à-dire ?
Le prêt-à-porter, la librairie, par exemple. Je suis beaucoup intéressé à la librairie, finalement. La librairie, comme le théâtre ou le musée, sert de cadre à la construction de notre profil culturel.
Mais est-ce que c'est vrai pour des magasins de bouche?
Aujourd'hui, quand on voit le renouveau de certains artisans alimentaires dont on parlait tout à l'heure, effectivement, ils viennent vous éduquer, ils viennent comme ça vous faire appartenir peut-être à une élite gastronomique, une élite culturelle, et vous allez effectivement orienter vos achats plutôt vers eux que d'autres circuits de vente.
Christine Chalut, vous recherchez la proximité comme un vecteur de lien social?
Alors nous, vraiment, ce qui est vraiment très important, nous on est très attachés à la communication, aux échanges qu'il peut y avoir avec nos clients. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un petit post sur Facebook pour indiquer qu'on a reçu de la vanille bio, par exemple, de Madagascar, à tel tarif. J'ai donné quelques petites astuces pour conserver la vanille. Donc, on essaye quand même d'avoir ce rôle éducatif, je dirais. Je fais des petites fiches de cuisine de temps en temps pour indiquer comment on peut éviter de gaspiller certains aliments, comment recycler une carotte qui a une sale tête, une betterave un petit peu ratatinée. Donc, c'est vraiment important, pour nous du moins, dans ce magasin, ce rôle de conseil et puis d'éthique aussi, sur des produits pas forcément nobles, mais sur des produits méconnus, qui méritent d'être connus, un peu oubliés.
Et les clients se rencontrent dans le magasin? C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de vie, pour le dire autrement?
Alors, on avait au départ ce qu'on appelle le lieu convivial, donc qui est adjacent à la boutique. Maintenant, c'est plus un endroit où on range nos réserves parce qu'on manque un petit peu de place. Mais au départ, c'était un lieu de rencontre. On animait des petits ateliers, j'ai animé quelques petits ateliers de cuisine pour parler de cuisine végétarienne. On a des copines qui animaient des ateliers de vélo, des trocs de fringues. Enfin, c'est toujours un lieu de rencontre puisqu'on a fait la connaissance de personnes auxquels finalement qu'on n'aurait pas pu rencontrer hors de ce lieu.
Ça, c'est très différent, Vincent Chabot, selon qu'on parle de, je sais pas, de la supérette de village ou de l'hypermarché ou du centre commercial. Vous avez beau dire que le centre commercial, c'est fait pour se promener et exister, en tous les cas que c'est une des fonctions du centre commercial, on voit bien qu'il y a quand même une vraie différence entre un endroit où les gens viennent pour se rencontrer, pour parler, pour échanger, même peut-être des recettes et des conseils, et puis ces espèces d'énormes malls à l'américaine qui arrivent de plus en plus, qui sont là depuis une vingtaine d'années maintenant en France, disons.
Le mot qu'on entend toujours, c'est la proximité. Elle a plusieurs sens. Il y a la proximité spatiale, effectivement, mais il y a aussi la proximité sociale. Et là, effectivement, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, on voit cette proximité sociale qui est évidemment différente dans les centres commerciaux, dans les malls. Là, on a effectivement du lien, des rencontres, de l'animation. Et dans le témoignage, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'investissement numérique au service du magasin. C'est pour ça que je pense qu'il est inutile de finalement
d'opposer
le numérique, les plateformes numériques et les commerces physiques. On voit effectivement que la pratique vertueuse consiste à utiliser les outils numériques au service du magasin.
C'est quand même vrai. Oui, mais c'est quand même vrai que le e-commerce, comme on dit, le commerce en ligne a provoqué la fermeture de nombreuses enseignes depuis les années 2000.
C'est l'une des raisons, ce qu'on appelle la retail apocalypse aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple. La retail apocalypse, c'est 9000 points de vente qui ferment chaque année depuis une dizaine d'années, avec des conséquences sur l'emploi assez fortes. Il y a d'autres raisons. Il y a le e-commerce. Amazon fixe les normes et les règles du e-commerce depuis 1995 aux États-Unis.
D'ailleurs, votre livre est sous-titré « Contre l'amazonisation ».
Voilà. Mais il y a d'autres raisons. Il y a les contraintes budgétaires aussi. Et puis, il y a l'évolution de la demande, malgré tout. C'est-à-dire que quand on voit les marques de distributeurs qui ferment aux États-Unis, on voit qu'ils ont un ciblage classe moyenne pour aller vite et qui ne répondent plus forcément à la demande de qualité, la demande de traçabilité, la demande de proximité d'une partie de la population.
Et la demande peut-être de prix moins cher. Christine Chalut, quel prix pratiquez-vous à l'alternateur ?
Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier. On est un magasin de bénévoles, donc nos charges sont forcément inférieures à celles d'un magasin classique, je dirais. On n'a pas de charges sociales, donc c'est vrai que ça nous permet d'appliquer des coefficients très bas. Tout ce qui est produit locaux, dans les 50 km aux alentours, on applique une marge particulière et à la baisse par rapport aux produits qui viennent ou du monde ou du moins d'un endroit un peu plus éloigné que l'Auvergne. Donc ça, c'est notre point fort. On a appliqué cette marge de 10% pour les petits producteurs et les produits locaux pour les valoriser et les mettre en avant. Parce que forcément, quand on s'approvisionne chez un grossiste, on réussit à avoir des prix beaucoup plus intéressants, mais c'est pas toujours à l'avantage des petits producteurs.
Et de quel œil vous ont vu arriver les autres commerçants, Christine Chalut ? Est-ce qu'ils vous ont vu arriver d'un bon œil ou est-ce qu'ils ont eu peur de la concurrence ?
Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'inquiétude au début parce que c'est un genre de magasin vraiment novateur. On travaille beaucoup avec du vrac, avec des produits locaux, avec des bénévoles. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement tout à fait novateur pour un petit village, du moins, qui ne fonctionne absolument pas sur ce modèle. Donc, au départ, c'était un petit peu compliqué. Mais dans notre charte, il est bien inscrit que nous ne devons faire aucune concurrence aux commerces locaux. Donc, on fait très attention. On a une petite épicerie fine de l'autre côté de notre magasin qui vend du café, des tisanes, du thé. Donc, on ne vend absolument pas de café, par exemple. On a un charcutier, un boucher qui ont vraiment pignon sur rue, qui fonctionnent très bien. Le but n'était absolument pas de les faire couler, bien au contraire. Donc, on ne vend absolument pas de viande et absolument pas de charcuterie. On a une librairie qui fonctionne très bien, pas de livres non plus, pas de produits d'hygiène.
Et il reste quand même des choses.
Voilà, mais il reste quand même plein de choses. Oui, absolument.
Tout à fait. Vincent Chabot, est-ce qu'on n'assiste pas quand même, ces temps-ci, à un renversement historique ? Des années 50, disons, aux années 70, le commerçant, le petit commerçant, il n'avait pas bonne presse. On était content que les supermarchés ouvrent à leur place. Il y avait une dimension poujadiste à la défense du petit commerce. Alors, votre livre n'est pas de la défense du petit commerce. Il n'y a pas de connotation poujadiste, de revival, on va dire, poujadiste. Enfin, quand même, on assiste aujourd'hui à une espèce de renversement, non ?
On est aujourd'hui à la fin de la modernité commerciale. C'est-à-dire qu'effectivement, cette grande distribution-là, aujourd'hui, elle connaît son modèle est de moins en moins rentable. Il y a toujours 2200 hypermarchés en France. Trois quarts de l'approvisionnement alimentaire vient d'hypermarchés. Il reste évidemment la norme, voilà, il domine pour les Français. Mais effectivement, on est aujourd'hui, ce petit commerce a changé d'image, notamment sous l'impulsion de nouvelles initiatives, comme on vient d'entendre, de nouveaux commerçants, aux nouveaux profils, effectivement, qui viennent revaloriser l'image du petit commerce.
À tel point même, et vous parlez de la proximité tout à l'heure, à tel point même qu'on assiste au déploiement des grands distributeurs dans le commerce de proximité. Certaines, alors, c'est plus vrai dans les grandes villes, on pense aux enseignes Franprix, Monoprix, on en parlera juste après la Madeleine. Il est 12h15 sur France Culture, dans les bonnes choses, et on passe à la Madeleine.
Ne peut être commerçant que celui qui a la vocation d'être commerçant. Si on ne reçoit pas les gens avec le sourire, si on ne reçoit pas les gens avec l'intention de leur rendre service, si vraiment on n'a pas ça en soi, bah, il est inutile de persévérer à être commerçant.
N'est-ce pas, Mathéo ?
Ben oui, mais la Madeleine, elle persévère. Je vous disais tout à l'heure, j'ai rencontré une figure de la nouvelle vague, Macha Merrill, qui évoque tout de suite Jean-Luc Godard, Louise Buñuel, Claude Lelouch ou Gérard Houry. Et Macha Merrill publie Vania, Vassia et la fille de Vassia chez Liana Levy, où elle explore la vie des Russes blancs en France pendant la guerre, leur rapport à leur nouveau pays, leur haine du communiste et peut-être leur compromission avec l'Allemagne nazie. Et Macha Merrill, fille du prince Gagarine, questionne aussi sa propre enfance dans ce roman. Et bien, c'est exactement ce qu'elle a fait pour Sainte-Madeleine, où elle nous parle justement d'un dessert russe.
Alors, ma Madeleine, c'est l'odeur d'un dessert qui s'appelle le kissil. C'est un dessert russe qui se fait à base de baies, de fruits rouges. Alors en Russie, on fait ça avec des érelles. Ce sont des érelles très particulières d'ailleurs, des érelles des bois, des marais qui sont un peu acidulées. Et en France, ma pauvre mère faisait, un peu pour se rattacher à ses souvenirs d'enfance, ce dessert avec du cassis et des groseilles. Et alors toute mon enfance, je la voyais pester contre les groseilles qui n'avaient pas le goût de groseille, contre le cassis qui n'avait pas le goût de cassis. Parce que vous savez, tous ces fruits-là, en Russie, existent encore et ont un parfum très très particulier. Surtout, je me souviens de l'entendre dans la cuisine pester parce que elle n'avait pas les outils pour faire ça. Vous savez, il faut un chinois, par exemple. Un chinois, tout le monde n'a pas un chinois pour passer les fruits. Et alors, avec une cuillère en bois, elle pressait ça contre une passoire. Et c'est plutôt un dessert de printemps, d'été, hein, puisque ce sont des baies. Alors, tous les goûts acidulés sont très saisissants parce que c'est comme le citron ou l'orange. Je veux dire, ce sont des saveurs qui montent au nez assez rapidement et qui s'évaporent, qui disparaissent, qui ne restent pas très longtemps. Ce n'est pas une odeur forte, c'est une odeur un peu volatile. Il faut d'abord les cuire, il faut les passer au chinois. Avec ce jus, on fait une espèce de sirop. Là-dessus, on ajoute là-dedans de la fécule de pomme de terre ou de la gélatine aujourd'hui, mais c'était plus traditionnel, la fécule de pomme de terre. Et ça devient une espèce de gelée acidulée. On ajoute toujours un petit peu de citron et ça se sert avec de la crème fraîche ou plutôt de la crème fleurette. Ça ne ressemble à rien des autres aliments que l'on mange habituellement. Et c'est un dessert que je continue à faire. C'est pas très bon. C'est un peu gélatineux. C'est bien quand on fait des efforts et qu'on y met beaucoup de fruits et beaucoup de sucre surtout. Mais en vérité, c'est une vraie madeleine. C'est-à-dire, c'est un crochet pour moi avec mes origines russes.
Et donc elle restera la Madeleine de Macha Merrill, parce qu'elle ne donne pas spécialement envie de la goûter.
Eh bien, vous pourrez en tout cas retrouver la photo du kissel sur le site de la Madeleine, sur la page de France Culture.
Et puis merci, vous verrez beaucoup, Mathéo Caranta. Christine Chalut, cofondatrice de l'Alternateur, le magasin citoyen à Sauxilange dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que vos clients vous demandent parfois des aliments, des recettes, des choses incongrues qui leur rappellent leur enfance?
Alors, je suis en train de fouiller dans ma mémoire, mais a priori non. J'avoue que nous, on se réunit assez souvent, on forme un groupe des acheteurs, on appelle ça notre groupe stock achat, et on se réunit régulièrement justement pour se demander ce qu'on va référencer. Et c'est vrai que moi, personnellement, je m'occupe des fruits et légumes. J'essaye quand même de pêcher de temps en temps chez nos fournisseurs des produits un peu oubliés ou des choses un peu originales, et j'essaye de les mettre en avant parce que ben ça nous rappelle l'enfance aussi, ça rappelle un tas de choses, donc ça arrive. Je les ai pas en tête comme ça, mais oui, ça arrive fréquemment.
Mais qu'est-ce que vous vendez par exemple en ce moment? J'ai vu que vous aviez de l'ail noir par exemple.
Alors là par exemple, vous voyez, ça fait il y a deux trois produits comme ça auxquels on tient beaucoup. On fait l'ail noir de Billon, C'est un monsieur qui produit ça depuis quelques années. Il est très connu. Il a été un des précurseurs dans ce produit. Donc nous, on vend en vrac. Et c'est un produit qui est très bon pour la santé. Au niveau culinaire, c'est très agréable aussi. Moi, j'ai un frère cuisinier qui l'utilise fréquemment. On vend, par exemple, des produits aussi atypiques que de la spiruline, qui est fabriquée en Auvergne, puisque quand même...
Vous tenez aux producteurs locaux.
On tient quand même aux producteurs locaux et à cette espèce de particularité de nos producteurs. On vend depuis peu de temps une pâte à tartiner, qui ne s'appelle pas comme on le pense. C'est une pâte à tartiner à base de noisettes et elle est fabriquée au nord de Clermont-Ferrand, par exemple. Donc, vous voyez, dès qu'on a la possibilité de trouver des produits comme ça, atypiques, surtout présentés en vrac, alors là, vraiment, c'est une merveille pour nous. On fait des lentilles vertes du puits, forcément, en label bio, et on les fait dans des gros sacs de 20 kilos. Ça, c'est des produits vraiment auxquels on tient beaucoup.
Vincent Chabot, on revient toujours à cette idée de proximité, mais pas seulement, on l'entendait juste avant la Madeleine de Macha Merrill, le service, le sourire, l'atmosphère du magasin compte presque autant que finalement les produits qu'on y trouve. C'est toute une ambiance, l'ambiance du magasin. Vous parlez même de la température, de l'importance de la température dans un magasin. Et ça, les grands comme les petits commerces, ils font très attention.
Dès les années 50 aux États-Unis, avec le développement des malls, effectivement, on va chercher... Les professionnels du marketing vont chercher à paramétrer la meilleure température pour vous faire consommer, bien entendu. Bref, il s'agit effectivement de jouer de manière artificielle, hein, évidemment, tout dépend de la température extérieure, sur les différents paramètres atmosphériques. Voilà.
Et pas seulement aussi, c'est-à-dire qu'il faut toujours attirer le client. Alors la température, la musique parfois peut attirer. Vous avez de la musique à l'alternateur, Christine Chalut ?
Non, parce que c'est toujours une histoire de droit d'auteur. Vous savez que quand on met de la musique dans un lieu commercial, on est obligé de payer des droits d'auteur, enfin de payer de la SACEM, donc on n'a pas de musique.
Mais on a le sourire.
Mais on a le sourire. Et moi je suis très attachée, personnellement, quand vous parlez de température, moi je suis très attachée à la température de l'ambiance. Et on a tous connu ça, de rentrer dans un magasin où il y a une espèce d'ambiance glaciale, où on ne se sent pas accueilli, pas reçu, avec convivialité. Et alors ça, c'est terrible. Vous rentrez dans un restaurant et vous êtes mal reçu, c'est terrible. Et je crois quand même qu'à l'alternateur, on a ça. On a ce côté très accueillant. On est géré par des bénévoles. Le magasin est géré par des bénévoles. Donc, c'est pas forcément des gens professionnels. Donc, ils savent pas toujours bien faire, mais ils le font avec le cœur, en tout cas.
Et on voit bien, Vincent Chabot, je le disais tout à l'heure, que certains grands distributeurs aujourd'hui essaient de copier ce type de commerce de proximité avec espace de service pour ressembler à une épicerie de quartier. Il y a même un concept qui s'appelle le concept mandarine qui a renouvelé l'enseigne Franprix, par exemple.
L'idée, c'est de mettre en place, de tenter en tout cas de mettre en place et de récupérer les codes du petit commerce indépendant, l'imaginaire positif de l'épicier, etc., à travers une batterie de services, à travers des aménagements, des endroits où on peut se poser, se restaurer, etc. Mais effectivement, parfois, c'est raté, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça peut coûter cher, effectivement, ce sont des investissements différents, il y a une rentabilité qui est quand même positive, mais pour l'intégration du consommateur au lieu de vente, parfois, ça laisse à désirer.
Christine Chalut, dernière question. On est jour du premier tour des élections municipales en ce 15 mars. Pour faire face quand même à la désertification des centres-villes et surtout des commerces alimentaires, dans certaines communes, le maire s'engage activement. Le maire à Saucy-l'Ange, il vous soutient ?
Alors, la municipalité nous a soutenus énormément. Il n'avait pas beaucoup de latitude, je dirais, pour nous trouver des lieux adaptés à notre projet. Mais... je dirais qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés et ils continuent de nous soutenir. Et dans la prochaine municipalité qui va être mise en place, là, nous aurons 2-3 personnes de l'alternateur. Donc, on espère avoir un soutien encore plus grand.
Encore plus
grand.
Mais
on a un accord de principe. On sent bien qu'ils sont attirés par ce magasin. Et puis, ils ont tout intérêt forcément à ce que ce bourg perdure et puis continue son activité dans le même sens qu'elle est partie, là.
Et avec vous, Pierre Hiverna, mais finalement, on continue dans ces relations entre clients et commerçants, ville, campagne, etc.
Absolument, Caroline, parce que je voulais vous parler d'un projet qui ne devrait vraiment pas déplaire à nos invités et qui propose au fond effectivement un possible dialogue entre l'épicerie de Saucy-l'Ange, par exemple, et celle d'une grande ville qui pourrait être Clermont-Ferrand, en l'espèce, et qui n'ont a priori pas vocation à communiquer. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle commence un peu plus au nord, dans une commune d'à peine 600 âmes, donc la moitié de Sauxilange, à Saint-Frimbaud, dans l'Orne, où officie un certain Alain Delangle, un éleveur en bio depuis 96, et qui a pris la sale habitude, en se levant chaque matin, de vouloir innover. C'est alors que notre agriculteur, start-upper permanent, se trouve un jour fort dépourvu quand les élections municipales furent venues, en constatant avec les élus de Saint-Frimbaud que, conformément à une tendance dont on vient de parler, le village se désertifie et que ses commerces foutent le camp, épiceries comprises. À ce constat, il ajoute un paradoxe en la personne d'une productrice néo-urbaine Frenchpin installée dans le canton, qui se voit obligée de vendre ses fromages dans une ville à 100 km du lieu où elle les produit. Alors, là où d'autres auraient imaginé quelques solutions de rafistolage en prenant conscience de l'immensité des forces du mal en présence, Alain Delangle voit tout de suite un peu plus loin que le bout de son village en capilotade. Le voilà qui trouve ses entrées à la mairie de Paris, ville où il a pu constater que la déconnexion avec la campagne, et particulièrement celle des enfants, prend parfois des tournures pathétiques. Il va convaincre là un arrondissement entier, le 18e, avec ses plus de 200 000 habitants, de mettre en œuvre le projet le plus improbable qui soit. Notre paysan ne va en effet rien de moins que réinventer un concept un peu passé de mode et de pertinence, celui des villes jumelées. Oui, oui, les villes jumelées, les mêmes qui vous font fièrement annoncer sur les panneaux rectangulaires d'entrée ou de sortie d'agglomération et vous annoncent des liens avec des villes souvent inconnues à l'autre bout de l'Europe quand ce n'est pas au-delà. Mais cette fois-ci, il s'agit de lier et relier villes et villages, non pas pour faire de la communication politique, mais pour agir pour des populations dont les cultures s'éloignent de plus en plus du centre d'intérêt qui furent un jour commun. En décembre 2018, naît donc l'association Campacity qui développe ses premières actions pilotes liées au jumelage de Paris 18e avec Saint-Frimbaud. Les deux collectivités s'y échangent tout aussi bien des voyages scolaires pédagogiques que des activités touristiques ou des événements sportifs, gastronomiques ou culturels. On va mettre également en relation des entreprises, ou plutôt les personnels de ces entreprises, car ici ce sont les citoyens qui sont au centre. C'est ainsi que les commerces, et singulièrement les épiceries, qui transmettent au-delà des aliments tout un paysage, pourront refaçonner à leur manière relation ville-campagne. Le Mira, par exemple, fromage affiné à la bière de la brasserie de la Goutte d'Or et qui tire son nom de la rue éponyme dans le 18e, pourra ainsi être vendu à Saint-Frimbaud et profiter du camion qui ramènera les fromages de chèvre de là-bas à la capitale. Ainsi, pour ceux qui participeront à ces projets, la campagne retrouvera un nom et des visages et la ville ne sera pas qu'un empilement de monuments touristiques et de bars branchés. Vive les villes jumelées!
Nouvelle tendance dans les commerces donc et nouvelle façon de considérer les villes jumelées. Merci beaucoup Pierre Hiverna, c'est une chronique qu'on retrouve bien sûr sur le site de France Culture à la page des bonnes choses et sur le site d'Alimentation en général. Merci à vous Christine Chalut de l'Alternateur à Sauxilange dans le Puy de Dôme. Et merci à vous Vincent Chabot, éloge du magasin contre l'amazonisation. C'est un livre qui est à retrouver aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute, en podcast, sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Ludovic Auger, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal. Et ensuite, ça sera Signe des Temps par Marc Weitzman.